France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Annie Arnaud a un peu tué le match, hein. On est d'accord, le terme de transfuge de classe, elle en est l'hérégie, elle l'a embrassé, elle est aussi devenue la référence de tous ceux qui sont venus après, à commencer par Edouard Louis, puisqu'il en a beaucoup parlé, lui, mais pas seulement. Annie Arnaud, c'est le récit d'elle-même, mêlé à un récit social qui mène du café-épicerie de la rue du Clos des Prats à Yvetot, à Stockholm, évidemment, pour recevoir le prix Nobel. Mais pourtant, autant d'Annie Arnaud, et elle me pardonnera cette allusion à son âge, on en parlait peu, on n'en parlait pas même de transfuge de classe. Le terme est devenu presque à la mode bien après. Voilà qu'il est partout depuis la mi-temps des années 2010, au point de soulever la question d'ailleurs des vrais et des faux transfuges de classe. Ceux qui vont se chercher des origines modestes, mes grands-parents agriculteurs, pour s'inventer peut-être un récit d'eux-mêmes qui les mettrait mieux en valeur. Ceux qui ne vont pas vers le récit de transfuge de classe alors qu'ils le pourraient, de peur peut-être de s'enfermer. Et on verra dans quoi. Parce qu'à la fin, c'est quoi un transfuge de classe? Vous sentez-vous transfuge de classe? Y a-t-il quelque chose qui permette de différencier le vrai du faux? Est-ce qu'il suffit, je sais pas, d'avoir fait des études supérieures quand vos parents sont arrêtés à la troisième? Donc forcément, vous évoluez vers un autre milieu. Est-ce qu'il faut ne pas travailler avec ses mains quand vos parents le faisiez, mais avec sa tête? Est-ce qu'on doit parler d'argent? Est-ce qu'on doit parler de savoir? Est-ce que c'est une affaire de perception? Je me sens transfuge de classe parce que... Est-ce que c'est une identité? Je le suis. Le livre sur lequel nous nous appuyons ce soir s'appelle « Trahir et venger ». C'est aussi ce que nous allons explorer ensemble. Est-ce que passer d'une classe à l'autre, c'est venger les siens? À la Annie Arnaud, justement, est-ce que c'est les trahir d'une certaine façon? Parce que quand on retourne en arrière, on ne le fait pas forcément de bon cœur, ou parce que parfois, la classe, elle nous colle aux chaussures, quoi que l'on fasse. C'est le téléphone sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Odile, la première, c'est vous, et on vous salue, on vous remercie, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Fabienne.
Bonsoir, allez-y Odile.
Oui, rapidement, voilà, j'ai fait des études de médecine, alors que mon papa a quitté l'école à 14 ans, ma maman à 15 ans, et je suis donc devenue ce que j'ai toujours rêvé de faire, médecin sans frontières. Et pour mes parents, déjà, c'était effrayant. Mmh. Ils m'avaient dit de ne pas dépasser bac plus 2, même si j'étais en récit à l'école. C'était déjà très, très bien de passer le bac et d'aller vers un DUT ou n'importe. Donc déjà, c'était non pas une trahison, mais déjà, je sortais un peu du cadre. Mmh. Et puis, toute ma vie, j'étais balancée entre la culpabilité vis-à-vis de mes parents, ma famille, parce qu'un jour... Ma mère et ma sœur m'ont dit « on sait que tu as honte de nous », ce qui n'est pas vrai. Mais je pense que j'ai jamais pu dissiper ce sentiment, et ça c'est dur. Puis la fierté, parce que c'est vrai que dans mon milieu professionnel, familial, ma belle famille, j'étais fière de dire d'où je venais. Mais je dis aussi encore à mes enfants que je n'ai pas de culture générale. Et ça, c'est pas facile. Mmh. Être médecin... Mais se sentir tellement décalé, souvent.
Merci vraiment pour ce témoignage, Odile. J'ai quand même une question pour vous. Pourquoi, qu'est-ce qui leur faisait peur à l'idée que vous alliez au-delà de bac plus 2? Est-ce qu'ils l'ont formulé, vos parents, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui disait « attention, parce que tu vas aller dans un milieu qui n'est pas le tien », est-ce que c'était « ne t'éloigne pas trop de nous » Qu'est-ce que ça disait, à votre avis?
Probablement. Moi, j'ai pensé surtout que pour eux... c'était déjà très bien dépasser le bac, donc c'était déjà un très bel objectif. Mais après, effectivement, j'ai senti la peur. La médecine, c'est le monde libéral, c'est un monde inaccessible, et que j'allais me perdre, et peut-être les perdre.
Mmh. Merci beaucoup, vraiment, pour ce joli témoignage et pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Laïlia Véron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans en stylistique et langue française. Vous chroniquez régulièrement dans le Grand Dimanche Soir sur France Inter, Laïlia Véron. Vous avez écrit avec Karine Abivin, Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe, c'est publié aux éditions La Découverte. Il y a Fabien Truong avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et écrivain, auteur de Routine, c'est votre dernier ouvrage, c'est un roman, vous enseignez à Paris 8. Vous êtes notamment, Fabien Truong, l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Les Défricheurs. Vous suivez trois jeunes gens en Seine-Saint-Denis, je crois savoir que vous les suivez encore d'ailleurs, et c'est ça qui est passionnant dans votre travail. Je voudrais vous demander à tous les deux, Laïlia Véron, pour commencer, ce que vous pensez de ce témoignage d'Odile. Moi, j'ai entendu tellement de choses qui sont jolies et qui parlent effectivement de ce balancement entre à la fois de la culpabilité et de la fierté. Et à la fin, quand on est Odile, on ne sait pas très bien où se mettre au milieu, en fait.
Oui, je dirais que c'est un récit un peu typique de transfuge de classe. On retrouve effectivement des choses, des schémas narratifs, le passage par l'école, les grandes études, et puis aussi les affects qui sont très présents dans les récits transfuge de classe, la culpabilité, la honte, la fierté. Donc c'est des éléments à la fois de parcours et de vocabulaire qu'on retrouve très souvent. Mais nous, ce à quoi on voudrait inviter dans notre livre, c'est aussi à prendre un peu du recul par rapport à ces récits, parce que c'est aussi la question, vous voyez, de comment est-ce qu'on se définit son parcours. Est-ce que on le définit par rapport à son propre ressenti, par rapport aux récits qui nous sont proposés, par exemple ceux d'Annie Dernaux, mais aussi d'autres. On s'y retrouve dedans, donc on se voit par rapport à ça. C'est des récits qui sont autour de nous, qui sont dans la littérature, dans les médias. Et donc on va se projeter, on va reprendre des éléments qui font écho, mais il faut peut-être aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, par rapport à ces éléments-là.
Mais alors justement, et pardon de cette question que je vais vous poser aussi, Fabien Truong, mais est-ce que ça se définit en fait, transfuge de classe, au regard même de ce que vous venez de nous expliquer, là il y avait comment on fait pour le définir? J'ai l'impression en vous écoutant que chacun a sa propre définition.
Non, je dirais pas ça, en fait c'est, au départ c'est un concept sociologique, donc effectivement Fabien Truong pourra rebondir dessus, qui désigne un parcours de mobilité sociale. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que dans les récits, notamment littéraires mais médiatiques, généraux, justement, on va surtout mettre l'accent sur les affects souvent négatifs, la honte, la culpabilité, c'est difficile de changer de classe sociale. Et on va beaucoup aussi parler de classe sociale ascendante, comme dans le témoignage qu'on a eu. Alors que la sociologie, bon déjà, va débattre des critères, vous en avez parlé en introduction, l'argent, capital économique, culturel, mais va aussi étudier, me semble-t-il, des parcours plus variés, avec des mobilités sociale pas forcément ascendante.
Ah oui, bah j'allais vous demander, ça existe, une mobilité sociale qui n'est pas ascendante?
Bien sûr, le problème c'est que justement dans les récits de transfuges qu'on connaît, déjà on peut voir un décalage, alors que beaucoup de gens ont l'impression d'être en déclassement, c'est aussi documenté par la sociologie. Et bien ces récits vont mettre l'accent sur les parcours ascendants et les traumas, les affects des parcours ascendants, et les décrire souvent de manière un peu négative, la honte, la culpabilité. La sociologie, je pense notamment à Paul Pasquali, montre qu'on peut avoir des mobilités sociales moins spectaculaires, mais aussi plus heureuse. Et justement, on peut se demander à quel point les récits, notamment littéraires, qui sont très présents, vont nous orienter. Voilà, c'est ça. À la fois, ça aide, on peut s'y retrouver. Je pense que le témoignage qu'on a entendu le montre. Mais est-ce que ça ne nous oriente pas vers une perception? Et on voudrait inviter à prendre du recul, justement.
Fabien Truong, vous, pardon encore une fois de vous le demander comme ça, mais à vous, le sociologue, en effet, est-ce que c'est compliqué de mettre une vraie définition derrière transfuge de classe? Ou est-ce que c'est aussi une forme de ressenti? Et c'est pour ça d'ailleurs que certains, comme je le disais en introduction, qui le sont techniquement, puisqu'ils sont passés effectivement d'une classe à l'autre, refusent de s'en revendiquer.
Bah en fait, il y a la question objective et subjective, hein. C'est ce qu'on entend très bien dans tout ce qui a été dit. Et en fait, même d'un point de vue objectif, pour les sociologues, c'est difficile en fait de mesurer la mobilité sociale. Je vais dire quelque chose de tout simple, mais par exemple, plus vous prenez de classes ou de critères, plus vous allez mesurer du mouvement, par exemple. Moins vous avez de groupes, moins vous avez de mouvement. Donc déjà, quand on regarde les choses historiquement, on voit qu'on a bougé entre les catégories et que, bah, en fait, on revisite très souvent ce qu'on croyait être de la mobilité avant et qui ne l'est peut-être pas. Il y a aussi des moments où, par exemple, en termes de groupes sociaux, on va mesurer de l'immobilité. Mais quand vous faites de l'ethnographie, que vous discutez avec les gens, vous voyez qu'il y a quand même de la mobilité dans la manière dont on perçoit les choses. Donc, j'ai envie de dire, même du point de vue de la sociologie, c'est difficile objectivement à dire ça, c'est de la mobilité, ça, c'est pas de la mobilité. Par contre, ce qu'on sait, et ça, il y a un consensus là-dessus, c'est qu'on vit dans une société qui est quand même faiblement mobile, ça, ça c'est sûr, et que la norme, il y a de la mobilité, ce sont des petits trajets. Ça, c'est extrêmement bien documenté. Donc, je termine. Ça veut dire que les discours littéraires sur les transfuges de classe sont souvent des discours où on a des grandes mobilités. Parce que ces grandes mobilités offrent un motif littéraire assez important. Or, dans la vie concrète des individus, il y a des déplacements, mais ils sont petits. Et donc là, il y a un hiatus qui est assez important. Mais du coup, il y a quand même quelque chose dans ces discours sur les grandes mobilités. Ça permet, un peu de manière métaphorique, d'incarner en fait des sentiments comme ce qui a été dit par Odile en début d'émission sur où je suis, ma place, la légitimité. Et ça, en fait, dans tout déplacement social, ces questions-là, elles se posent à des échelles diverses et dans des temporalités différentes.
Mais est-ce que ça veut dire, Lalia Véron, que les récits, au fond, ceux qui nous parviennent, et en général, effectivement, ce sont des récits littéraires, alors on va citer Annie Ernaux, vous aussi, vous la citez beaucoup, mais c'est vrai qu'on est dessus, mais il n'y a pas seulement ça. Est-ce que ça veut dire que, au fond, ce sont c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, parce que des récits comme ceux-là, et des vies comme celles-là, et des histoires comme celles-là, il y en a finalement très peu. Et comme le dit Fabien Truong, au fond, la mobilité, elle se fait à une échelle qui, en général, est bien plus petite, en fait, que cette échelle-là.
Oui, ce sont des exceptions à deux titres. Déjà, parce que ce sont des mobilités très souvent spectaculaires par rapport aux mobilités sociales plus faibles. Et puis aussi parce que, normalement, les transfuges de classe, enfin, très souvent, les figures les plus connues vont dénoncer le déterminisme social, scolaire, dire qu'ils ont bien conscience de ce déterminisme, tout en proposant des parcours de mobilité et donc des exceptions. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tout le monde, ou presque en tout cas quand la catégorie se répand, si elle est censée être une exception, puisque le transfuge ou la transfuge de classe est censée être une exception sociale, comment ça se fait que ça se répand autant? Ça, c'est vraiment un paradoxe, c'est un paradoxe dont les auteurs ont des fois du mal à sortir.
Et en même temps, et vous le soulignez dans votre livre, très souvent, ils parlent du « je », ils sont dans le « je », ils sont rarement dans le « nous », en fait. Et vous dites, à juste titre d'ailleurs, que Édouard Louis commence avec un « je » et finit dans ces 10 ou 15 ans littéraires qu'on lui connaît aujourd'hui plus avec un nous, mais ce sont des récits à la première personne.
Oui, et c'est encore une tension de ce type de récit qui souvent dit qu'il veut parler des autres, de son milieu d'origine, redonner la parole, être porte-parole, et en même temps fait quand même une narration à la première personne avec une focalisation interne. Bon, il y a plein de tentatives littéraires, langagères assez intéressantes pour aller vers un nous. Hein. Annie Ernaux le fait dans Les Années, Édouard Louis le fait de manière très différente, mais notamment dans Qui a tué mon père, mais quand même, on revient à des parcours individuel. Et ça, c'est aussi un côté un peu romanesque, mais aussi un côté un peu héroïsation individuelle, héroïsation d'un parcours qui se termine des fois en conte de fées. Hein, Édouard Louis qui nous raconte qu'il voyage aux quatre coins du monde. Mais je pense aussi à plein de récits plus communs. Hein, Guillermo Guise, qui est un humoriste, a fait un récit de son parcours extraordinaire aussi, dit-il, en tout cas de mobilité sociale. Et donc, c'est encore un paradoxe et une tension. Est-ce qu'on peut vraiment parler des autres en disant « je » ?
Et au fond, je vous entends, j'ai l'impression que le choix du récit, soit il est dans une espèce de douleur, en fait, qui raconte cet avant-là, soit il est, j'allais employer le mot folklore, qui est un mot beaucoup trop fort, mais soit il est dans une espèce de récit fantasmé aussi, en fait.
Bah,
visiblement, on a du mal à trouver la ligne médiane, en fait.
Je pense que c'est vraiment très dur de faire son auto-socio-analyse. Bien sûr, beaucoup d'auteurs, d'autrices disent qu'ils le font, et c'est intéressant parce que il y a un paradoxe sociologique très fort à ça. Transfuge de classe, au départ, c'est un concept sociologique, mais le faire de manière subjective, via ses affects, son ressenti, sa personne, forcément, on va avoir une tension subjective. Est-ce qu'on est vraiment apte à se catégoriser socialement? Par exemple, vous voyez, on va très souvent voir ses efforts, on va très, très souvent voir ses manques, et c'est humain, c'est normal, et beaucoup moins ses ressources. On va voir les efforts qu'on a fait et moins les aides qu'on a eues.
Younes, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Alors, je voulais simplement dire que ce concept de transfuge de classe, franchement, je le déteste. Hein. Franchement, je le trouve... je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il faudrait dire que comme des gens ont réussi, ils doivent se sentir comme étant des traîtres à leur classe, donc ils auraient dû rester... dans leur situation originelle. Je vais prendre un exemple personnel, puis pour élargir, pour pas rester dans l'exemple personnel comme vous en avez discuté tout à l'heure. Moi, mes parents, ils sont marocains, ils arrivent en France dans les années 70, ils ont poussé à l'école, tous les enfants sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, on a tous plutôt bien réussi. Maintenant, je suis prof. Et j'ai des élèves aussi, qui sont à Vitry-sur-Seine, milieu populaire, lycée un peu difficile parfois, quelle est la perspective qu'on leur donne? On leur dit faut pas réussir, sinon vous allez trahir. Ou alors, si vous réussissez, faut avoir honte. Moi, je suis plutôt de l'école de Gérald Bronner, en fait. Vous voyez, qui disait ben non, ces discours-là ne sont pas tout à fait audibles. Mmh. Et quand vous avez parlé de Annie Ernaux tout à l'heure, bon, Annie Ernaux, j'aime beaucoup, j'ai lu Les Années, j'ai lu La Place, tout ça, mais en perspective, j'ai également lu Neige Sinot qui dit, bah, en termes d'origine
ouais.
pauvre, et... bah non, faut pas exagérer. Moi, Neige Sinot, c'est ce qu'elle dit, elle dit, bah, moi, j'étais vraiment le lumpen prolétariat, ouais. Et Annie Ernaux, c'était quand même la petite bourgeoisie.
On est tous le lumpen voilà. prolétariat de quelqu'un, vous le dites aussi, merci beaucoup, Younes, vous le dites dans votre livre aussi, qu'effectivement, pour Neige Sinot, au fond, celui qui a le petit magasin, parce que c'était des petits commerçants, les parents d'Annie Ernaux, il a la main sur le crédit.
C'est hein. ça, la main sur le crédit, ouais. c'est celui qui peut mettre sur l'ardoise. Ouais. Et effectivement, Annie Ernaux va beaucoup insister sur le capital culturel ouais. dans son parcours, plus que sur le capital économique, parce que ses parents étaient de fait commerçants. Mais ce qu'on a entendu...
Et qu'elle est devenue prof, ce n'est pas une manière de devenir riche.
Oui,
alors, les bouquins, sûrement, mais...
En tout cas, mais de fait, ses parents ont pu lui payer une école privée, des mm-hmm. études, donc elle va beaucoup plus mettre l'accent sur le capital culturel. Et voilà, ça devient un débat sur les critères de définition de transfuge. Mais ce qu'on a entendu, effectivement, sur la question de trahir, alors trahir, c'est parce que c'est un mot très souvent associé, encore une fois, à ces récits. Annie Ernaux le cite, écrire, c'est peut-être le dernier recours quand on a trahi. Et puis, c'est l'origine du mot transfuge, celui qui passe de l'autre côté, le traître. Mais très souvent, dans ces récits de transfuge, on va proposer quand même un dépassement de la trahison. Mmh. C'est la honte, mais la honte d'avoir eu honte. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est l'insistance sur des affects assez négatifs, ce qui est un peu la norme dans ces récits transfuges-là. Juste pour expliciter, Gérald Bronard, il a fait une sorte de récit de contre-récit transfuge, ou à la fois, mais il est assez ambigu lui-même, parce qu'à la fois il dit qu'il n'aime pas la vogue des récits transfuges, que c'est un peu misérabiliste, mais il en fait un quand même. Mmh. Et nous dit, je voudrais pas vous faire un passage pour vous faire pleurer, mais je vais quand même vous raconter ce moment où la dame qui employait ma mère s'est montrée pleine de mépris de classe. Et ça, c'est aussi une tension des récits transfuges. Ouais. C'est ce qu'on appelle une prétérition, dire qu'on veut pas dire, mais dire quand même. Et je pense que ça montre à quel point l'étiquette, elle est à la fois séduisante et réductrice. Même les personnes qui disent rejeter cette étiquette, comme Gérald Bronard, ils peuvent pas s'empêcher de refaire quand même un récit là-dessus. Et c'est cette fascination autour de cette étiquette qu'on a eu envie d'interroger dans le livre. Pourquoi est-ce que même quand on est critique, comme notre auditeur vis-à-vis du récit transfuge de classe, on doit dire mais quand même moi aussi, et quand même pourquoi est-ce qu'on a envie de faire un récit de soi par cette étiquette-là?
Fabien Truongle, là-dessus, moi, je voudrais vous entendre, et notamment sur parce que dans ce que vous étudiez, dans ce que vous avez vu, vous êtes un petit peu dans le même genre de configuration de celle de notre auditeur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous parlez pas de transfuge de classe, vous parlez de cheval à bascule. Et j'ai trouvé intéressant parce que dans l'idée du cheval à bascule, on va et on vient en permanence. En fait, on bascule jamais totalement dans une autre classe et dans un autre monde.
Oui, en fait, je pense qu'il faut sortir un peu des catégories morales ou binaires, vous voyez, trahir ou ne pas trahir, vous voyez, comme si c'était l'un ou l'autre. Et en fait, ce qu'on entend très bien, on voit que c'est pas l'un ou l'autre, c'est que quand on regarde des temporalités longues, et en fait, dans le témoignage de monsieur, c'est ça, en fait, il nous raconte un parcours de vie. Dans les enquêtes ethnographiques que je fais, mais que d'autres collègues peuvent faire aussi, on regarde des parcours sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des moments, effectivement, de violence sociale très fort, quand il y a une confrontation, une altérité sociale, quand on arrive dans un milieu où on n'a pas les codes, etc., avec ce moment un peu initial, qui est parfois initiatique, de violence sociale, il peut être très très fort. Et en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que le succès littéraire d'un certain nombre de récits de transfuges de classe, plutôt que, vous voyez, de parler de la question de est-ce que la France est une société mobile ou pas, il a du succès parce qu'il dit des choses de ce moment-là, vous voyez, oui. de ce moment de la violence sociale. Il ne dit pas vraiment des choses sur les positions sociales des uns et des autres. Parce qu'en fait, quand on regarde dans la temporalité, la norme, c'est qu'en fait, même si vous avez ces moments de violence sociale qui sont souvent initiatiques, qui peuvent ressurgir, il y a aussi d'autres éléments en fait qui se mettent en place, plus doux, pourrait-on dire, ou alors plus où on recompose les choses aussi en permanence. Et d'ailleurs, ça c'est très humain entre guillemets, c'est ce qu'on appelle en sociologie, enfin ce que Bourdieu appelait l'illusion biographique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on avance dans la vie, en fait, on reconstruit une image de son passé. Et vous voyez, par exemple, dans mes enquêtes où je suis des jeunes longtemps, et bien ce que je fais très souvent, c'est que je leur pose les mêmes questions sur la manière dont ils se voient, la manière dont ils perçoivent le monde social, vous voyez. Mm-hmm. Et tous les 6 mois, où les réponses, elles changent, parce qu'en fait, on reconstruit son histoire. Et donc, en fait, il y a des moments où, quand on se sent un peu plus installé, et ça prend du temps, surtout quand il y a eu un déplacement, et bien on a une trajectoire, enfin, on a une vision un petit peu différente des moments de violence sociale.
cette remarque d'Olivier sur l'appli France Inter, Lalia Véron, qui dit « L'expression transfuge de classe, au fond, est-ce qu'elle n'est pas la preuve que l'ascenseur social est définitivement en panne en fait ?» Et comme vous le dites, vous, dans votre livre, vous regardez les occurrences, en fait. Mmh. Et il n'y en a pas beaucoup, des occurrences de transfuge de classe, jusqu'en à peu près 2015 ou dans ces eaux-là. Et ensuite, il y en a beaucoup. Donc, pour qu'on les marque à ce point-là, est-ce qu'il n'a pas raison, en partie, notre auditeur ? C'est précisément parce que l'ascenseur social est en panne qu'on marque tellement ces parcours-là qui sont des parcours finalement singuliers.
C'est vrai que ça a explosé à un moment et que il y a une sorte en tout cas de contradiction, de paradoxe entre le fait que ces récits aient tant de succès et qu'en même temps on ait aussi peur du déclassement et que ces récits eux-mêmes sont dans cette contradiction de vouloir parler d'exception tout en disant mais attention, je veux surtout pas qu'on me prenne comme un exemple d'ascenseur social, de méritocratie. Mmh. Et au bout d'un moment, on peut interroger cette tension. Certes, même s'ils nous disent il faut pas le lire comme ça, s'ils nous représentent ce trajet-là, comment ne pas le lire de cette manière, comment? Et ça peut être une bonne chose, hein, notre auditeur nous le disait, ça peut aussi donner de l'espoir, ça peut aussi de fait être réconfortant, parce que on a mis trahir et venger dans le titre de notre livre, et souvent les récits transfuges vont être un peu tonitruants dans l'idée de dire trahir ou venger, mais quand on regarde pas juste ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent vraiment, très souvent c'est des réconciliations. Ah ouais. Hein. Finalement, on se réconcilie avec le milieu d'origine en écrivant. Ouais. Donc c'est finalement des récits qui à la fois se disent très politiques, très radicaux, et en même temps ont une narration assez réconfortante à la fin. C'est pas du tout les anciens récits de la mobilité sociale, je pense à Balzac, où le vrai transfuge de classe, c'est Lucien de Rubempré dans Illusion perdue, ça se termine très mal.
Dites, ouais.
C'est pas Rastignac, c'est Lucien. Je pense à Antoine Bloyer de Paul Nizan, où à la fin, là, il y a une vraie trahison, c'est-à-dire que celui qui était du côté, qui est né dans le milieu ouvrier, réprime les grèves et se suicide. Finalement, les récits de transfuge de classe contemporains sont beaucoup plus conciliateurs.
Et c'est vrai. Et même Annie Arnaud, d'ailleurs, finit par le dire elle-même, je ne sais pas si j'ai vengé ma race, comme elle le disait.
Oui, pour le coup, elle prend de la distance par rapport à ce qu'elle disait avant Venger ma race dans son discours du Nobel. Elle dit qu'elle avait un certain orgueil
elle
a pris du recul et que peut-être qu'une victoire individuelle n'est pas une victoire collective.
C'est exactement ça qu'elle dit, que j'ai trouvé fascinant en fait. C'est qu'elle se demande un moment, elle dit qu'elle croyait avec orgueil et naïveté que sa victoire à elle était une victoire collective et au fond c'est ça dont elle doute aujourd'hui.
C'est ça, et puis je pense que ça peut nous inviter encore une fois à repenser certaines catégories un peu à la mode, par exemple l'intime et politique. J'existe, je suis, donc c'est politique. J'écris, donc c'est politique. Annie Arnaud le disait, puis a pris du recul. Bah comment, pourquoi, en quoi ça nous lie vraiment à une classe sociale, à d'autres classes sociales? Encore une fois, c'est prendre du recul par rapport à certaines étiquettes qui peuvent nous guider, mais qui des fois peuvent aussi nous dispenser de réfléchir.
On parle de transfuge de classe dans le téléphone sonne ce soir avec Lalia Véron, qui est maîtresse de conférence à l'université d'Orléans en stylistique et en langue française pour son livre Trahir et venger, avec Karine Abivin, avec Fabien Truot aussi, qui est sociologue et écrivain, et puis avec Pascal Pic. Bonsoir Pascal Pic.
Bonsoir Fabien.
On est heureux de vous avoir parce que on voulait vous avoir quelques minutes avec nous, Pascal Pic, parce que on vous connaît bien, vous êtes paléo-anthropologue. Vous refusez, vous détestez vous aussi ce mot transfuge de classe. De fait, si on regarde juste votre CV, vous l'êtes, vos parents étaient maraîchers dans mes souvenirs à Gennevilliers, et vous, on sait ce que vous êtes devenu. Vous détestez ce terme-là, mais peut-être d'abord parce que d'un point de vue anthropologue, au fond, le changement de classe, c'est tout le temps, non ? Ça bouge tout le temps, ces affaires-là.
Oui, alors ça, là, si on se met dans une perspective de l'évolution humaine, mais sur les dernières décennies, le demi-siècle, moi je suis surpris, effectivement, moi je suis un baby-boomer, donc il y avait des questions de lutte de classe, des classes quand même qui étaient assez bien définies entre les ouvriers, les artisans, les paysans, le monde universitaire n'était pas très étendu, enfin inaccessible, de toute manière on n'y pensait pas. Et alors que ces dernières années, donc je suis un peu surpris d'ailleurs de toutes ces... Alors l'émission, évidemment, est tout à fait pertinente, mais on entend souvent sur votre antenne, mais c'est quoi les classes moyennes, par exemple? Alors du coup, je me pose la question, c'est quoi les transfuges de classe à un moment où, en effet, nous avons une diversité de métiers, de revenus, etc., comme jamais dans ce qui a été l'histoire de nos sociétés. Donc une question sociologique quand même qui est assez passionnante. En ce qui me concerne, effectivement, le premier témoignage de Odile a été évidemment sensible pour moi. Au bout d'un moment, on a l'impression que, oui, on n'a pas une espèce de monde, on n'a pas la même culture que les autres. Mais au bout d'un moment, mais ça prend du temps et on n'y reste pas tout le temps, je crois. C'est au bout d'un moment, on se dit, mais moi aussi, j'ai une culture. Je connais des choses que n'ont pas les personnes des autres, j'allais dire classe sociale, en tout cas des autres milieux sociaux. Alors moi, je n'aime pas trop le terme de transfuge parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce de cadre sous-jacent où il y a des classes vraiment prédéfinie. Moi, je viens d'un monde de maraîchers qui a disparu. Ensuite,
exactement, mais c'est là que je voulais vous emmener, Pascal Pic, en fait.
Voilà,
votre bouquin s'appelle « Itinéraire d'un enfant des 30 Glorieuses ». Quand on est dans cette période-là, dans les 30 Glorieuses, de toute façon, il y a deux choses. Un, on ne peut que monter, en quelque sorte. Et puis surtout, en effet, il y a un monde qui disparaît pour faire place à un autre. Ce qui est évidemment plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas un monde qui disparaît pour faire place à un autre.
Voilà, et ces mondes aujourd'hui sont plus confus, c'est plus compliqué d'ailleurs, hein, on voit toutes les inquiétudes des jeunes pour Parcoursup, que faire pour ceux qui ont leur bac. Mais en ce qui me concerne, effectivement, j'ai eu la chance, évidemment, peut-être, de croiser des bonnes personnes. Mais d'un autre côté, par exemple, en ce qui concerne, alors je ne vais pas revenir sur le jeu, c'était décrit, mais par exemple, je n'ai pas de carrière formidable, je peux vous le dire. Hein. J'ai terminé ma carrière, entre guillemets, comme maître de conférence. Je n'ai aucune distinction, mais ce n'est aucune frustration, soyons très clairs. Et à partir du moment où j'ai pu comprendre, mais c'est effectivement difficile de sortir de ce que disait le témoignage d'Odile, le sentiment de honte, je suis pas comme les autres. Mais ce que j'ai compris au bout d'un moment, c'est que aussi les autres étaient quand même à s'intéresser par un parcours qui n'était pas tout à fait habituel. Donc moi, je préfère le terme de nomade social, en effet, parce qu'il permet de tous ces changements. J'aime pas trop le terme de transfuge par rapport à cela. Et puis effectivement, dans mon livre, je parle de Annie Arnaud, donc ça
a été évoqué dans les émissions,
et de Gérald Bonheur. Et Gérald Bonheur, lui, a une très très belle carrière, par exemple, voyez-vous. Mais voilà, donc aucune jalousie, aucune frustration, mais effectivement le plus compliqué pour des personnes plus nombreuses qu'on ne le croit, même s'il y a beaucoup de parcours individuels, c'est au bout d'un moment de se dire, de s'abstraire effectivement de dire que bah, je suis extrait d'une classe inférieure, avec des sentiments d'inférieur que je déteste complètement, et au bout d'un moment de se dire je peux apporter des choses, et puis souvent les gens qui viennent vous voir d'autres milieux sociaux, c'est parce qu'ils sont intéressés par peut-être une singularité, mais qui n'est pas de l'exotisme non plus.
Pascal Pic, restez avec nous, je voudrais vous faire réagir, Lélie Aveyron, là-dessus, et notamment sur ce que je disais au milieu de l'intervention de Pascal Pic, c'est-à-dire, il y a cette période, en fait, on est encore une fois dans les 30 Glorieuses, est-ce qu'on peut comparer des parcours comme celui-là à des parcours qui existent aujourd'hui, encore une fois sur des morceaux de France qui de toute façon disparaissent. À la fin, ça n'existe plus. Il n'y a même pas de choix en fait.
Alors, je pense que
dans
pour
cette génération-là,
la question vraiment sociale historique, faudra demander à Fabien Truong. Mais ce qui effectivement, pour répondre à votre question, ce qui me semble intéressant, c'est que vu que ces récits se ressemblent beaucoup, ont les mêmes narrations, les mêmes étapes, le même vocabulaire, alors qu'ils sont écrits par des personnes différentes, à des générations différentes. Édouard Louis, c'est pas la même génération qu'Annie Ernaux. Ça nous donne l'illusion qu'un même parcours, avec les mêmes étapes, est possible, indépendamment de la situation historique et sociale. Parce que finalement, ce sont des efforts individuels ou des aides individuelles par les parents qui sont mises en scène dans ces récits-là. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit à propos des classes sociales, bon, moi je pense que les classes sociales existent bien encore, mais ça c'est encore peut-être le sociologue qui pourra rebondir. Mais c'est intéressant effectivement sur transfuge de classe, parce que qu'est-ce que ça veut dire que ce mot est autant pris? Est-ce que ça veut dire qu'on croit aux classes sociales, aux luttes, aux inégalités, aux mobilités entre classes sociales? Est-ce que c'est un signe de politisation, d'intérêt fort pour cette notion-là? Ou est-ce qu'au contraire, quand le mot se répand et que chacun y met un peu ce qu'il veut, que même des personnes à des moments qui viennent de milieux quand même avec beaucoup de ressources du transfuge de classe, ça devient un pur ressenti, un pur affect. Justement, on va parler de honte, on va parler de se sentir mal à l'aise, de se sentir tiraillé et moins de définition concrète de classe. Là, il y a une ambiguïté qui est intéressante.
Je voudrais qu'on retourne au standard et je me tournerai vers vous juste après Fabien Truong. Sandrine est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, écoutez, initialement, je voulais proposer un témoignage, et puis j'ai l'impression que ce témoignage a déjà été exposé. Je voudrais juste réagir à des choses qui ont été dites. Je voudrais revenir sur la honte. Alors moi, mon témoignage, je le résume rapidement. Je viens d'un milieu modeste. Je suis devenue prof et pas ministre, hein, mais prof, c'est quand même cadre, et par rapport à mon origine, évidemment, c'est différent, et ça crée évidemment des relations plus compliqué avec les parents. Mais je voudrais revenir sur la notion de honte. Et cette honte, en fait, elle n'est pas seulement quand on sort de son milieu, mais quand on vient d'un milieu modeste, comme le mien et celui dans lequel j'ai grandi, un milieu ouvrier, on honte de sa position sociale et on la transmet. et on la transmet, on l'a bien intériorisée, et après on comprend qu'il faut, ou en tout cas c'est ce à quoi on aboutit, on se dit que bah il vaut mieux s'en sortir. Et puis aussi le discours de nos parents qui nous disent qu'effectivement faut faire des études pour ne pas devenir ouvrier. Ça c'est une première chose. Et puis je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la structure sociale, parce que finalement la structure socio-économique s'est modifiée pendant les Trente Glorieuses et elle a été opportune pour une mobilité sociale qui s'est effectivement ouverte à des milieux qui n'y étaient pas prédestinés. Mais aujourd'hui, comme cette structure est un peu plus figée, c'est pour ça qu'on en arrive à dire que l'ascenseur social est en panne. Mmh. Pour moi, l'ascenseur social, en soi, il n'existe que s'il y a des conditions économiques qui le nécessitent. Mmh. Et c'était ce que je voulais ajouter.
Merci.
Et voilà.
Merci beaucoup, Sandrine. Il n'existe que s'il y a des conditions sociales qui le nécessitent, Fabien Truong. J'aimerais bien, monsieur le sociologue, avoir votre avis là-dessus.
Bah, j'aurais envie même de revenir sur les trajectoires de mobilité en fait ou de déplacement, parce qu'en fait quand on les regarde d'un point de vue sociologique, on voit aussi que souvent on parle d'individus, bon soit c'est l'effort, soit c'est le mérite, soit c'est la chance, soit c'est mais en fait quand on regarde un petit peu de sociologiquement ces parcours où voilà les individus se sont déplacés, on retrouve en fait des phénomènes sociologiques comme le fait d'apprendre différents codes sociaux et d'arriver à les mobiliser. Les anglo-saxons parlent de code switching, bah tout ça, ça se comprend sociologiquement. Le fait aussi d'avoir des alliés, en fait, c'est-à-dire qu'on réussit jamais seul. Ça c'est aussi un peu une mythologie. Quand on regarde les trajectoires dans le détail, on voit toujours qu'il y a eu soit du collectif, soit la puissance publique aussi, qui est importante. C'est-à-dire, des bibliothèques, c'est un peu devenu aussi un topos, mais ça joue aussi. Enfin, donc il y a tous ces éléments-là. Et en fait, quand on les regarde d'un point de vue sociologique, on voit aussi que ces déplacements, en fait, ils sont permis des phénomènes sociologiques, des processus sociologiques, quand bien même ils sont individuels. Mais on a du mal aussi à le voir parce qu'ils restent effectivement, d'un point de vue statistique, assez minoritaires.
Mais dans ce que disait Sandrine, je reviens à et notamment les sujets de vos études et ce qu'on peut entendre de la part des jeunes gens que vous suivez, Sandrine, elle nous explique au fond que ça lui colle au basque, malgré tout, en fait, que sa classe et son milieu lui colle au basque. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant aussi votre travail, c'est qu'à la fin, dans cette distance entre deux mondes, celui dont on vient colle toujours à la semelle, quoi qu'on fasse.
Oui et non, en fait. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment pas être binaire. Alors, c'est pour ça que vous avez mentionné tout à l'heure, moi je parle de cheval à bascule, parce que cette métaphore, elle permet de se dire que, bah, comme un petit enfant au départ, quand on va aller d'un côté, on a l'impression qu'on va s'écraser.
Et surtout qu'il n'y a pas chemin sans retour, en fait.
Moi ce que j'observe aussi, c'est que plus le temps passe, plus aussi les individus qui se sentent à un moment donné illégitimes arrivent à trouver une forme de place, à trouver une forme de coexistence entre différents mondes. Et au bout d'un moment, c'est même habilité. C'est-à-dire le fait de pouvoir passer d'un endroit à un autre, c'est aussi une forme de richesse, si on veut parler de cette manière-là. Et ça peut aussi être vécu comme ça. Mais en fait, vous voyez, les situations, elles sont... Vous pouvez avoir des moments où vous vivez comme ça, et puis avoir une forme de confrontation avec l'altérité sociale assez forte, parfois violente. Et aussi, il me semble que si ce terme de transfuge social a pris, et qu'il est devenu un mot valise, c'est que, en fait, dans la société contemporaine... Beaucoup de personnes peuvent connaître des expériences de confrontation à l'altérité sociale assez dures, en fait. Il y a qu'à voir aussi l'état d'espace médiatique sur ces questions-là, hein, sur les représentations des groupes sociaux, sur les représentations des trajets. Et donc, ces aimants-là, qui sont peut-être plus subjectifs, mais qui font référence à des situations où les individus peuvent vivre très difficilement leur parcours. Elle explique aussi pourquoi il y a un peu une demande de mise en récit de ces choses-là à travers des personnages, en fait, d'une certaine manière.
Là, il y avait Ron, justement.
Oui, je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ces catégories. La honte, c'est omniprésent. Annie Arnaud a fait un livre qui s'appelle La honte, et c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais pourquoi le mettre en avant comme ça? Peut-être parce qu'on le ressent, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est une manière de rendre rendre hommage à son milieu d'origine? Est-ce que c'est une manière de comprendre son parcours? Est-ce que c'est une manière aussi de se mettre en valeur en disant que même si on a réussi, ben de fait, c'est quand même difficile de réussir pour nous? Est-ce que ça nous réconforte pas d'avoir un sentiment de culpabilité? Peut-être parce que ça nous dispense de nous poser d'autres questions. Je pense qu'il faut aussi prendre de la distance par rapport à ces affects. Ces affects, on peut les ressentir, ils peuvent être réels, mais réfléchissons à pourquoi est-ce qu'ils sont autant mis en avant dans ces récits. C'est peut-être parce que ça nous fait plaisir, donc il y a peut-être quelque chose de réconfortant dans la honte.
Pascal Pic, rapidement, vous vouliez intervenir et puis on retourne au standard.
Oui, moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je me souviens quand j'ai commencé à être reconnu, que je passais dans les médias, que j'avais des livres, mes parents me disaient « Tu ne devrais pas dire que tu es fils de maraîcher ou fils d'ouvrier. » Et ça, je ne l'ai jamais compris. Et en fait, il y a des beaux métiers, beaucoup de gens qui s'épanouissent en étant ouvrier, d'autres artisans, d'autres maraîchers. Et c'est ça, en fait, qui est tout à fait pénible. C'est que d'où vient ce sentiment de honte, alors que dans toutes les professions, et quelles que soient les classes qui font employer ce terme, il y a de magnifiques réussites. Et
là, il ne faut pas non plus nier les rapports sociaux
par rapport
entre
à la
les
représentation
classes,
des métiers.
Il ne faut pas non plus nier les rapports sociaux entre les classes. Si on dit qu'il y a des bons métiers partout, on dirait que tout le monde s'entend très bien et que finalement tout le monde est à égalité et que tout va bien entre les classes.
Il ne
faut pas avoir honte aussi. Mais là, ce n'est pas la même chose de ne pas avoir honte d'être ouvrier et de ne pas avoir honte d'être fils d'ouvrier. Parce que quand vous êtes ouvrier, vous pouvez être directement en situation de violence sociale. Et pour le coup, c'est aussi ça sur quoi il faut s'interroger. Pourquoi on parle tout le temps de la honte d'être enfant d'eux, de la souffrance d'être devenu dominant et pas de la souffrance des milieux justement d'origine directement?
Alors justement, pas de honte, c'est Maria qui veut dire ça. Bonsoir Maria.
Bonsoir.
On vous écoute. On vous écoute Maria.
Je souhaitais intervenir parce que justement cette notion de transfuge de classe m'a toujours laissé extrêmement perplexe. Parce que moi, en théorie, j'en suis un, puisque mon père est ouvrier du bâtiment et ma mère, femme de ménage. Moi, maintenant, je suis avocat. Mais j'ai jamais ressenti cette progression comme un vrai transfuge de classe. J'ai eu un parcours scolaire tout à fait lambda. Je suis allée à l'école du quartier, au collège du quartier, au lycée du quartier, à l'université qui était dans ma ville. Et puis, tout s'est fait, on va dire, tranquillement. Et maintenant, j'évolue dans mon milieu professionnel comme n'importe lequel de mes confrères ou consoeurs. Et je ne ressens absolument pas de sentiment de trahison. Et je dirais même que ça aurait été le contraire. En fait, ça aurait été d'échouer, qui aurait été une trahison à l'égard de mes parents, puisque s'ils sont venus en France, puisque je suis issue d'immigration, c'était aussi pour avoir un avenir meilleur pour eux, mais surtout pour leurs enfants. Et au contraire, je pense ne pas les avoir trahis en allant jusqu'au bout de la démarche.
Et même bien au contraire, Maria, merci beaucoup pour votre témoignage, je trouve ça intéressant, Lalia Véron. Ça aurait été une trahison si je n'avais pas fait ça, justement.
Oui, mais parce qu'il ne faut pas non plus inverser les choses, avoir une mobilité sociale ascendante, et on n'a eu que des témoignages de mobilité sociale ascendante. Ça nous montre bien à quel point transfuge, maintenant, ça devient lié à ça. Ouais. C'est quand même gagner des ressources.
Alors, cette question d'Adèle sur WhatsApp que je voulais vous garder pour la fin et qui dit « Mais est-ce qu'on parle aussi de transfuge de classe pour les personnes des familles bourgeoises ou aristocrates qui perdent en termes de niveau de vie, de propriété, d'études, etc. et qui deviennent artisans ou enseignants, etc. » Est-ce qu'on parle aussi de transfuge de classe dans l'autre sens?
Ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue conceptuel, on devrait, mais de fait, dans les récits qui viennent jusqu'à nous, on a le plus souvent des récits ascendants, ne serait-ce que parce que pour avoir accès à la parole publique imprimée, il faut sans doute un certain capital. Et quand on a des récits de personnes un peu descendantes, on voit que c'est un déclassement très relatif. Je pense à Laure Murat, elle vient d'une famille vraiment de princes, de princesses, mais là elle est prof de fac aux États-Unis, donc vous voyez, c'est un déclassement relatif. Ouais. Ça nous montre bien à quel point...
Vous citez Constance Debray par exemple,
Constance
c'est intéressant.
Debray, typiquement Constance Debray.
Mais là la descente elle est volontaire.
Oui, et puis c'est une descente aussi relative, elle garde des ressources, ne serait-ce que son nom qu'elle utilise, mais elle le dit, elle en a conscience. Elle dit qu'elle est l'upper class de la déclasse.
Absolument, elle triche pas. Elle dit, et moi j'ai trouvé ça intéressant, je crois que c'est dans Playboy au début, elle dit, elle a 10 euros en poche, elle peut même pas acheter ses clopes, mais elle dit, je suis ontologiquement riche.
Oui, et puis elle a aussi des ressources, elle a une famille, elle a des gens vers qui se tourner. De fait, c'est pas la même chose d'être pauvre quand on a des ressources potentielles qu'on peut mobiliser et d'être pauvre quand on n'en a pas. Et ça aussi, il faut prendre conscience de ça.
Et quand on en a eu d'autres aussi, quand on en a eu avant, c'est passionnant. Laïla Véron, je conseille vraiment aux gens avec Karine Abivin. Abivin, vous avez écrit c'est trahir et venger, pardon, j'ai failli trahir la Bretagne.
Faut pas faire ça, là c'est dangereux.
C'est terrible, paradoxe des récits de transfuges de classe et de ses auditions. La découverte, merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci mille fois à vous aussi Fabien Truong et à Pascal Pic. Merci. Ah, la question des petits bateaux, c'est Violette. On écoute Violette.
je voudrais savoir qui a inventé les pièces de monnaie. Merci.
Eh ben, qui a inventé les pièces de monnaie, on le saura dans 3 minutes, parce qu'on est en train de... Il n'y a pas de pub ou pas, finalement? Ah bah si, on n'a qu'1 seconde de pub, alors allons-y.